Bravo à tous, bienvenue à Angle Mort. Trois sujets aujourd'hui. Hier, c'était mon anniversaire. Et puis, ça a été une journée... c'est agréable, hein, avec Facebook, on reçoit tout le temps plein de souhaits partout, c'est le fun. Mais c'était une journée tranquille, j'étais supposé aller avec mes chums de filles au breuvage, au Parc La Fontaine. Et puis, finalement, tu sais, il a fait une journée, il pleuvait par bout et tout, ce qu'on a reporté ça à samedi. Alors voilà, tout simplement. Mais c'était très bien, c'était très, très bien. Mais disons que j'ai surtout fêté à Québec en fin de semaine, lorsque je vous ai compté mon pique-nique, puis tout ça, puis c'était bien le fun. Ça fait que, voilà. Il y a deux sujets aujourd'hui. Il y a un article de Philippe Quentin qui s'appelle le 10 mai, justement le jour de ma fête hier, qui était une journée historique. C'était la première fois en 112 ans qu'il n'y avait aucun Québécois dans l'alignement des Canadiens. Ça, c'est mon sujet principal. Mais avant ça, je veux vous parler de quelque chose. Tu sais, je vous ai dit que je sors d'une passe où j'étais moins motivé, etc. Puis un des symptômes de cette baisse de motivation-là, ça a été la promotion de mes podcasts. Ça fait un mois que j'ai pas envoyé ma newsletter. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas envoyé en story sur Instagram, sur Twitter ou dans Facebook mon épisode d'Angle Mort, etc. Bref, zéro promotion. Et vite de même, j'ai l'impression que ça n'a aucun effet réel sur les chiffres. C'est-à-dire que mes chiffres ne montent pas moins vite, baissent absolument pas. Puis ça me fait poser la question suivante à laquelle je vais vous demander d'intervenir. Si vous suivez Angle Mort sur une base régulière, ou si vous suivez d'autres podcasts sur une base régulière, les avez-vous nécessairement découverts? À vrai dire, comment vous les avez découverts? Parce que je suis en train de me demander si ça fait vraiment la différence ou si, à quelque part, quand tu fais un contenu audio ou vidéo, s'il n'y a pas une transmission un peu classique, entre guillemets, c'est-à-dire très bouche à oreille. C'est-à-dire que peu importe bouche à oreille, mais c'est pas toi-même qui fais ta promo. Puis j'ai oublié de demander à Mike quand est-ce que Sous-Écoute s'est mis à décoller, mais c'est-tu vraiment parce que le monde a commencé à se le partager? Je pense que non. J'ai l'impression que c'est très rare que les gens partagent. C'est comme là, moi, ça fait trois fois qu'il y a des gens qui disent publiquement ou en privé au courant des dernières semaines que Angle Mort, c'est leur podcast numéro un. Ils pensent que c'est le podcast numéro un au Québec. Encore, quelqu'un m'a écrit, mais c'était avec une adresse anonyme, mais il y a 3-4 jours de ça, tu sais. C'est que tu fais, bon, est-ce que quand vraiment un podcast s'est rendu quelque chose que t'aimes énormément, ou une émission de radio, hein, TV ou peu importe. Tu sais, parce que quand tu vois les codes d'écoute de District 31, là, c'est-tu à cause que le monde en a parlé sur Facebook, ou bien c'est juste que la vie est ainsi faite. Quand il y a quelque chose qui marche, mais tout à coup, l'info se promène. En un mot, j'ai l'impression qu'on a réduit la promotion de ce qu'on fait sur Internet à Internet lui-même. C'est comme si on se dit, si tu fais du contenu sur Internet, il faut absolument que tu bombardes tout le temps. Puis j'ai l'impression que non, parce que quand tout à coup je prends un break de ça, parce que j'y pense moins, j'ai vraiment l'impression que ça ne change rien. Fait que vous allez dire, ça ne peut pas nuire, je veux bien croire, mais c'est parce que je suis en train de développer une espèce de stratégie ultra-indépendante, over-indépendante. Vous remarquerez qu'Angle Mort, il n'y a aucune place pour qu'on puisse aller échanger suite à un épisode. Il n'y a pas une page, il y a la mienne, sur laquelle j'aimais presque jamais, mais il n'y a pas une page Angle Mort où est-ce que tu peux dire, hey, moi aujourd'hui, je pense ça, telle affaire. Alors, souvent, vous m'écrivez en privé, mais puis je me disais, c'est une lacune, puis à quelque part, je suis en train de me dire, non, ça pourrait être carrément ma stratégie puis ma façon de voir ça. C'est-à-dire, tu fais des contenus. Puis quand tu raccroches, c'est terminé. Tu t'en occupes plus, tu penses à le prochain contenu. Salut! Il n'y a pas d'affaire de suivi, de patente, de... Tu sais, on dirait qu'il y a comme une mode qu'il faut tout partager, puis il faut réagir. Peut-être pas. En tout cas, regardez, je suis en brainstorm là-dessus, là, puis si vous avez du feedback, ça va m'intéresser. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être même une vision un peu d'avant-garde de faire comme, non, un podcast, tu le fais, puis quand il est fini, tu t'en vas. Il n'y a pas d'affaire de promo, il n'y a pas d'affaire de ci, puis là, on page, puis on retourne, puis là, c'est comme, non, moi, c'est, quand c'est fini, on se revoit la semaine prochaine. Ben, dans, mettons, pour chez Bois-Larcuit, que je repars cette semaine en passant. Puis, ça fait qu'en tout cas, je fais juste vous partager ça. Maintenant, mon sujet principal, c'est... Alors, je pose la question suivante. Dans le cas du Canadien de Montréal, qu'il n'y a pas de joueur qui vient du Québec pour la première fois le 10 mai, jour de ma fête, est-ce que A, c'est grave parce qu'à quelque part, comme essaie de nous le démontrer Philippe Quentin dans son article, les Canadiens font partie du patrimoine, ça fait partie de l'identité culturelle du Québec, etc. Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce qu'à cause de ça, ça prend des joueurs locaux? Ou B, c'est une mentalité de syndicaliste, c'est-à-dire que même un journaliste, mais encore plus quelqu'un dans l'organisation, puis certains fans peuvent dire que c'est important quand la réalité, c'est juste pour protéger les jobs. Et moi, je pense que c'est le deuxième. Parce que j'ai toujours pensé ça de la radio à Québec, qui depuis toujours dit tout le temps « Ah, la radio à Québec, faut venir de Québec, faut être de Québec, puis blablabla. » Ce qui est mon cas, c'est-à-dire j'y habite pas, mais je viens de Québec, puis j'ai fait mon cours jusqu'à l'université, mon stage, tout. Mais moi, là, dans ma tête, là, je pense que c'est complètement une mentalité de syndicaliste. C'est du protectionnisme. C'est-à-dire que réellement, ce qui fait qu'on entend ça, c'est tout le temps comme d'habitude, c'est les complotistes, on les entend plus fort que monsieur, madame, tout le monde qui va juste se faire vacciner puis qui s'en fout puis qui fait sa vie. Moi, je crois que les gens qui sont très protecteurs ont tout le temps une belle argumentation, nous amènent tout le temps des arguments pour dire que c'est comme ça, puis c'est genre, c'est des faits. Puis la réalité, c'est juste protéger une job. Moi, ce que je pense qui est le succès du club de hockey, le Canadien de Montréal, c'est des victoires. C'est des victoires. Je me souviens encore quand les Nordiques qui sont allés chercher Peter Stachny, puis qu'après ça, ça a été Marianne et Anton Stachny, m'a dit de quoi on était loin des trois gars de Charlebourg. Puis ça a été le délire. J'ai jamais vu, moi, dans l'histoire des Nordiques, un enthousiasme aussi grand que quand les trois Stachny étaient en avantage numérique. C'était comme, garde, on pouvait miser, on le sait. Ça fait que, je veux dire, là, il va falloir que vous me détruisiez cet argument-là quelque part, là, parce que moi, je crois qu'à partir du moment où t'as des joueurs qui sont bons, tout le reste passe deuxième. Alors, évidemment, si t'as des joueurs qui sont corrects, puis que là-dedans, t'as un joueur québécois qui est fantastique, peut-être. Puis aussi, je rajouterais autre temps, autre mœurs. Alors, sortez-moi pas juste des exemples d'Henri Richard, puis de Guy Lafleur, puis de Aurel Joliat, là. À un moment donné, la société change aussi. Ça fait que peut-être que l'équipe des Canadiens de Montréal avait une assise plus forte culturelle à l'époque, puis que finalement, les temps ont changé. T'sais, à un moment donné, tout le monde a Internet, là. Ça fait qu'on a vu des noms de joueurs russes, puis ça arrête juste plus. Ça fait que, est-ce que... Puis pourquoi ça serait spécifique à Montréal? Parce qu'on parle qu'il n'y avait pas de joueurs québécois. On n'a pas dit des joueurs québécois francophones. Ça fait que c'est comme il y a eu une étape où semble-t-il que d'avoir un Québécois francophone, c'est important. Là, d'avoir nécessairement un francophone, non, pas tant, mais d'avoir un Québécois. Puis là, tout à coup, il n'y en avait pas aujourd'hui. Moi, je pense honnêtement, c'est de la foutaise. C'est une équipe de sport. Ça a pu l'assise que ça a déjà eu. C'est plus représentatif d'une certaine culture. C'est représentatif, à vrai dire, oui, mais d'une culture de l'entertainment qui s'est nord-américanisée totalement. Je prends l'exemple des films québécois. Quand un film québécois est très bon, ça devient pas tout à coup The Talk of the Town, puis il faut que tout le monde y aille parce que c'est un film québécois. À vrai dire, on continue à les critiquer sévèrement parce que souvent, on les trouve plates. Mais quand, tu sais, je veux dire, bon cop, bad cop, grande réussite commerciale, comédie le fun, etc. Mais qui a dit « Ah, c'est fantastique, j'ai mon T-shirt, bon cop, bad cop. » Non, arrêtez. Là. Ça fait que moi, je pense que les Canadiens de Montréal s'est rendu une équipe, c'est d'abord et avant tout de l'entertainment, parce que c'est le propre du sport, que j'endosse total. Hein. Moi, j'étais un grand fan de baseball, etc. Mais, puis, tu sais, je veux dire, à Québec, il y a combien de fans de toutes sortes d'équipes de football, alors qu'on n'en a même pas. T'sais, on a le Rouge et Or. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse au sport de Ligue majeure, le Rouge et Or sera jamais un vrai substitut. Jamais. Je veux dire, ça peut faire triper Vez ou faire triper d'autres commentateurs sportifs. Mais dans la vraie vie, je suis désolé, là, mais si t'as pas une équipe de la Ligue de la NFL, ou bien si tu n'as pas une équipe de la Ligue canadienne, ben oui, tu te rabats sur ton équipe locale, mais de là à dire que ça a le même effet, puis que c'est pas vrai, là. Donc moi, j'achète pas ça du tout. Je suis convaincu que c'est ça. J'appelle ça une mentalité de syndicaliste. Qu'on espère, à quelque part, on fait vivre encore des choses à travers cette argumentation-là que c'est symbole de Montréal, etc. Puis c'est vrai! Je dis pas que c'est pas symbole de Montréal, je dis pas que c'est pas un facteur d'identité, puis que c'est... Oui, mais faites la différence, dans le fond, c'est ça mon point, faites la différence entre le brand puis sa composition. La marque canadien, là, si quelqu'un osait un jour dire « Hey, on va appeler ça les Canadiennes », là, ça serait... Écoute, ça ruerait d'un brancard à mort. Mais qui compose au jour le jour la marque? Puis la preuve de ce que je vous dis là, c'est une observation que je me suis toujours demandé. Comment on fait pour rester tout le temps fan d'une équipe alors que quelques années plus tard, en moyenne, je dirais peut-être 10 ans plus tard, il n'y a pas un seul joueur qui est encore là. Bien, ça veut dire qu'on cheers pour la marque. C'est la marque qui nous fait triper. Honnêtement, les joueurs sont totalement interchangeables. Là, Carey Price, en plus, tous ces beaux commentateurs sportifs puis les fans de la première heure sont il est génial une journée, puis s'il en perd 3 de suite, il est pourri, il faut qu'on l'échange. Ça fait que franchement, votre fameux facteur d'identification personnelle, moi, il me fait rire. Parce que, sérieux, au moins moi, avec mon beau sport, la lutte, tu peux pas changer un lutteur pour un autre comme si de rien n'était. T'aimes l'organisation, mais l'organisation, t'as pas une attache particulière. T'as une attache avec les lutteurs. Bon, même chose pour les sports individuels. Il y a personne qui dit c'est la WBC qui moi je trippe, puis j'ai des statuts de la WBC. Non, tu trippes sur un boxeur, sur Holyfield, tu trippes sur n'importe qui a fait sa marque, puis tu deviens fan. Fait que dans le sport d'équipe, l'équivalent du joueur individuel, c'est le logo, c'est la marque. À la rigueur, c'est même l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, pour moi, a plus d'importance qu'un joueur vient, un joueur part. Ça fait qu'après ça... Ça fait que tout ça pour dire qu'on s'en rend pas compte, mais on est tout le temps en train de prendre ce prémisse-là comme du cash. Tu sais, c'est comme, ah oui, puis là... c'est une erreur de logique. C'est un saut trop rapide. De dire que, comme je vous dis, moi, je reconnais la valeur culturelle du club, je reconnais que le brand est fort, puis après, on saute tout de suite après en disant, donc, ça prend des joueurs québécois. Non. Bourse ça de joueurs québécois qui est une équipe qui perd tout le temps. Tu vas voir si le monde va en faire. C'est génial, c'est fantastique. C'est pas vrai, ça va les gazer complètement. C'est un parfait exemple de quelque chose qui est dans l'air, qu'on prend tout le temps comme du cash, puis qui, dans la vraie vie, ça ne l'est pas pantoute. Bref, moi, qu'il n'y ait aucun joueur québécois pour les Canadiens, c'est pas un plus. Malgré que, moi, je ne suis pas un super fan, mais je suis ça quand même un peu à distance. J'adore l'idée qu'il y ait un club à Montréal, mais que le club soit composé. Puis reprenez un exemple des frères Stachny. Il n'y a personne dans la ville de Québec qui a dit « Ah, oh, mon Dieu, des Tchèques, puis là, c'est des Russes, puis des communistes. » Puis ce qui est, vous comprenez l'ironie, c'était l'exact contraire, mais... Ça fait qu'en tout cas, moi, c'est mon point, puis ça sera source probablement de débats intéressants. J'espère avoir été clair. Sur ce, bonne journée.